BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est notre séance cardio de l'après-midi. Bienvenue à tous. Il nous coach dans notre séance cardio quotidienne, Antoine Larigauderie. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Votre mot du soir aujourd'hui.
Statistique, avec le meilleur trimestre depuis deux ans pour le CAC 40, sans doute, qui se profile en clôture aujourd'hui. Plus 0,2% pour un CAC 40 qui est à 8384 points. Meilleur trimestre depuis 2020, sans doute, pour Wall Street également. Le Nasdaq, plus 0,86%, plus 0,21% pour le Dow Jones, le S&P 500, plus 0,39%, et sans doute le pire trimestre en 13 ans pour l'once d'or fin, qui perd 13% et qui est à 4 060 $. C'est des statistiques sans doute les plus frappantes au terme donc de ce deuxième trimestre. Assez impressionnant et sans doute historique par beaucoup de côtés.
Le CAC 40 signe son meilleur trimestre en deux ans, effectivement. Voilà, c'est impressionnant aussi sur les marchés américains. On parlera de l'inflation qui ralentit en Europe. On a les chiffres pour la France et l'Allemagne aujourd'hui qui ralentissent nettement sous les attentes. Ça, c'est bon signe avant le chiffre d'inflation de la zone euro qui sera publié demain. Ça va peut-être tempérer un peu les ardeurs de la Banque Centrale Européenne pour continuer de relever ses taux. Les banquiers centraux restent réunis à Sintra, d'ailleurs, au Portugal. Et puis, on parlera justement de comment transformer tout cela en idée d'investissement pour le deuxième semestre qui va démarrer demain. Le portefeuille idéal, ce sera à 17h35. Et puis, dans le reste de l'actualité, vous savez que BFM Bourse est au contact des marchés, mais BFM Business de toute l'actualité. Eh bien, le livret A va augmenter à partir du 1er août, une annonce de Roland Lescure. Il s'agit de s'adapter à l'inflation, sachant qu'au premier semestre, la rémunération du livret A était inférieure à l'inflation. La taxe sur les petits colis mise en place en France sera supprimée à partir de demain. Elle sera remplacée par une taxe européenne censée réguler l'afflux de petits colis en provenance des plateformes chinoises essentiellement. Et puis la compagnie aérienne SAS va acheter jusqu'à 40 Airbus A330, commande estimée à plus de 10 milliards de dollars. Cette commande marque un tournant après des années de difficultés financières pour SAS, la compagnie scandinave, qui d'ailleurs s'apprête à passer dans le giron d'Air France KLM. Plus d'analyses là-dessus aussi dans 18-19 et Bichevrillon tout à l'heure. D'ici là, on est à vos côtés. Bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Olivier Maltès, directeur des investissements de Altéis by Yomoni. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue Alain Pitou, senior advisor ESG. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
On est content de vous retrouver pour cette dernière du deuxième trimestre, du premier semestre. Bon alors ce deuxième trimestre, on n'arrête pas de le répéter, mais le CAC signe sa meilleure performance en deux ans, meilleur trimestre en deux ans. On a Wall Street aussi, le S&P comme le Nasdaq signe leur meilleur trimestre depuis 2020, depuis le rebond post-Covid, au début du rebond après le Covid. On en est là, quoi. Comment vous expliquez cette performance? Alors, personne ne l'avait peut-être vu venir à ce point-là, mais est-ce qu'après coup, vous dites c'est surprenant? Est-ce que vous dites c'est logique et ça doit se poursuivre? Comment vous regardez et vous tirez le bilan, Olivier?
Après un mois de mars qui avait été compliqué sur les marchés actions avec la guerre en Iran, à le début de la guerre en Iran, on a vu, et c'est essentiellement à partir du 7 avril, où les marchés actions, ils ont commencé à dire, la guerre est finie, on va trouver une solution à partir du moment où Donald Trump a commencé à dire, on va négocier, on va se donner le temps de faire une pause. Et c'est assez, moi c'est ce que je retiens quand même d'assez nettement et assez étonnant sur le trimestre, c'est qu'on a ce fort rebond action depuis le début du trimestre, hein, sur le mois d'avril, à un moment où les marchés de taux, les taux avaient fortement monté évidemment sur le mois de mars avec le côté inflationniste et les craintes d'inflation, et les taux sont restés relativement élevés longtemps, donc ils rebaissent là depuis quelques semaines, légèrement, timidement. Mais il y a vraiment cette dichotomie entre le comportement des marchés actions qui, dès le début du mois d'avril, a semblé être complètement optimiste sur le côté fin du conflit et donc réouverture du détroit d'Hormuz assez rapidement, et des marchés de taux qui étaient plus prudents globalement, avec des taux qui sont restés hein, proches des 4,50 sur le 10 ans US et 5 sur le 30 ans relativement longtemps, et qui rebaissent de manière beaucoup moins marquée aussi que le pétrole, qui lui pour le coup a aussi fortement rebaissé sur les dernières semaines.
Qu'est-ce qui sur le premier semestre, on va élargir, ou non, deuxième trimestre, on termine le trimestre, voilà, sur ce deuxième trimestre qui s'achève, vous semble avoir été le plus marquant? Le yo-yo sur le pétrole avec l'incroyable hausse puis l'incroyable baisse, l'IPO de SpaceX, Kevin Warsh à la tête de la Fed, les cartes mémoire dont on a découvert l'incroyable potentiel, l'or qui a chuté aussi. Enfin, il s'est passé des choses folles sur ce trimestre.
Il s'est passé beaucoup de choses vraiment sur le trimestre ou sur ce qui va avoir le plus d'impact sur le trimestre d'après, parce que
sur le trimestre, on fait le passé, après on va faire
le passé. Donc ouais. Sur le passé, je pense que c'est vraiment le pétrole. Moi, d'accord. Je suis très surpris par la vitesse avec laquelle le pétrole est revenu de manière très importante sur les niveaux d'avant le début du conflit, parce que pour moi, il devrait y avoir une prime de risque sur le fait que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, mais en tout cas peut être bloqué, ce qu'on n'anticipait pas et ce qu'on n'imaginait pas avant justement que les Iraniens bloquent ce détroit d'Ormuz. Jusqu'à présent, c'était considéré comme quelque chose qui n'arriverait pas, qui était à mon avis pas précis dans les marchés. Et puis on a aussi besoin de reconstituer du stock, on a besoin de reconstituer, de racheter du pétrole, et le pétrole est vraiment revenu sur une situation d'avant-crise très très rapidement et beaucoup plus rapidement que ce que j'anticipais moi personnellement. Donc c'est vraiment pour moi le mouvement du pétrole globalement. Le fait d'utiliser les réserves a permis de faire en sorte qu'il ne s'est pas si envolé que ça. Il a monté, hein, mais on n'est jamais arrivé sur des niveaux supérieurs à du 150 ou du 200 dollars le baril, hein, comme on aurait pu le redouter à un moment. Et on le voit, même lorsqu'il y a des tensions et lorsqu'on voit que la négociation est quand même compliquée, alors essentiellement le week-end, évidemment, quand le pétrole est fermé, mais on voit quand même globalement que le pétrole reste relativement détendu, de la même manière que le marché action, globalement, reste très détendu. Et donc, je pense que je relèverai le pétrole, même si pour la suite, hein, Kevin Warsh, ça va être quelque chose de très important sur la suite, et il a fait une entrée et une première présidence de comité monétaire qui peut être notée. On y reviendra peut-être, mais sur le passé, je pense que c'est le pétrole, sur le trimestre, c'est le pétrole qui est pour moi qui est le plus notable.
Et vous, Alain, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Déjà, le bilan donc, du trimestre, le Nasdaq a gagné 25%, le S&P 17%, Madrid, Milan gagnait 15%. Le Stoxx Europe 600 aussi, super perf. Hein. Meilleure perf depuis 2020 pour le Stoxx Europe 600. C'est-à-dire que l'Europe, même si c'est moindre qu'à Wall Street aussi, est sur un rythme historique. Là.
Alors moi, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir la résilience incroyable du marché. C'est-à-dire que si on aligne tous les risques potentiels du marché... Et certains étaient avérés, hein, quand on avait la crise iranienne, qui était quand même assez grave, avec le détroit d'Ormuz qui était potentiellement fermé pour un bon moment, avec des événements concrets qui arrivaient dans l'actualité, on aurait pu penser que le marché allait au moins reculer assez nettement. Rien du tout. Donc ça, c'est la première étape, c'est le fond de sauce, on va dire, de ce marché. Et donc le marché ignore les risques long terme, et paye et anticipe énormément de bonnes nouvelles potentielles sur l'activité, sur les perspectives de l'IA, etc. etc.
Jusqu'ici, la réalité lui a toujours donné raison au marché.
C'est une explication. Ça reste quelque chose qui me surprend toujours. Moi, je suis un enfant, je suis très naïf, et je suis toujours étonné de voir que le marché prend pas plus en compte certains risques. Rappelez-vous, enfin, on en a parlé assez régulièrement, ça revient de temps en temps, un petit warning sur le risque crédit, quoi, le crédit privé qui est à moitié en train d'exploser. En début de période, là, il y a encore quelques semaines, on annonçait des fonds qui remboursaient un petit peu d'une partie de leur sortie. Donc, on aurait pu penser que ça allait être réévalué. Non, et encore une fois, je trouve que c'est vraiment les marchés d'aujourd'hui, c'est globalement, les institutionnels sont vraiment dans un système de momentum, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une bonne nouvelle, on la paye vraiment, un momentum positif, et on ne sanctionne pas les mauvaises et les risques potentiels. Et puis, il y a un phénomène d'engouement qui est incroyable sur certaines valeurs. Enfin, on peut en reciter un certain nombre qui ont monté de 50, 60, 70% en quelques semaines, parce que tout le monde a les mêmes idées au même moment sur des titres qui n'ont pas forcément... et ce n'est pas des small caps, hein, c'est des valeurs, c'est des trucs qui pèsent 4, 500, 1000 milliards. Donc voilà, je pense que ça, c'est le marché d'aujourd'hui avec... à un moment donné, après, la question qu'on va se poser, c'est à quel moment ça devient un excès ? Parce qu'on finit le semestre quand même, on finit le trimestre, on finit le semestre avec des effets de levier qui sont rarement atteints, à tel point qu'on a même des coûts d'endettement pour acheter des actions qui sont dans les niveaux les plus élevés qu'on ait connus depuis assez longtemps. On voit les Japonais, qui sont quand même normalement des investisseurs assez raisonnables, qui payent avec beaucoup de levier sur les actions, beaucoup de levier sur les actions en Corée, beaucoup de levier sur les actions à Taïwan. Je ne parle pas des États-Unis qui, eux, sont pratiquement au maximum du levier possible partout. Donc, je ne dis pas que c'est... je ne parle pas de bulle, etc. Mais voilà, ça fait une interrogation, et on finit le semestre confortable sur pas mal de performances quand même. Donc, c'est... Après, ça va être la question d'après, je pense. Enfin, je fais déjà les questions
d'après. Pour la suite.
Voilà. Non,
on va y venir.
Je vous laisse faire. Je vous laisse mener votre émission.
Alors, avant de passer à la suite, justement, et à l'avenir, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau semestre qui démarre demain? Quel a été pour vous l'événement principal? C'est la question qu'on posait aussi à Olivier. Alors, vous allez y avoir droit, vous aussi. Est-ce que ça a été l'IPO de SpaceX sur le deuxième trimestre qui vous a le plus marqué? Le yo-yo du pétrole? Kevin Warsh à la Fed? L'or qui s'est cassé la figure aussi ces dernières
semaines? Non, enfin, pour moi, l'information la plus marquante, c'est le montant des capex des grands investisseurs, enfin des grandes sociétés qui investissent dans l'IA. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose qui est le corollaire, c'est que ces entreprises qui rachetaient leurs actions et qui étaient cash riches, de manière incroyable. Enfin, on n'avait jamais connu des générations de cash de ce niveau-là. Elles sont gentiment en train de passer de l'autre côté de la force, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'elles s'endettent et elles vont arrêter de racheter leurs titres. Donc c'est quand même quelque chose qui est à prendre en considération. Alors encore une fois, c'est ce que vous disiez, le marché pour le moment se dit, il y a une interrogation. Mais je ne vends pas mes titres, même si on regarde le trimestre pour Microsoft, il n'est pas très bon, Oracle s'est fait déboîter, enfin, il y a quand même un paquet de boîtes qui ont souffert. Sur les Mag 7, depuis le début de l'année, je crois qu'il y en a deux qui surperforment légèrement le S&P, hein, et les autres sont en sous-performance assez nette. Donc,
Microsoft là, est en train de vivre au mois de juin son pire mois depuis 2025, perd 18%.
Voilà, il y a quand même un peu d'interrogation, je ne suis pas le seul à me poser des questions sur les CAPEX et l'impact que ça va pouvoir avoir sur les résultats dans les mois qui viennent.
Bon, mais on se les posait déjà il y a 6 mois ces questions, bon. Et puis regardez où on est.
Bon, tant pis, m'en vais.
Continue, alors. Qu'est-ce qui va pas bien? Pas pour vous, hein, pour l'économie américaine. L'enquête Jobs, elle a été publiée aujourd'hui. Le marché de l'emploi reste dynamique, nous montre l'enquête Jobs qui a été publiée en Europe. L'inflation ralentit, on n'attendait rien de mieux. L'inflation, que ce soit en France ou en Allemagne, ressort largement sous les attentes au mois de juin. On aura demain l'inflation de l'ensemble de la zone euro. Donc une croissance, une activité de l'emploi, en tout cas un marché de l'emploi toujours en forme aux États-Unis, puis en Europe, une inflation qui ralentit. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour la suite, Olivier ?
Qu'est-ce qu'on veut de plus pour la suite ?
Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus, quoi ?
Je pense qu'on aura quelque chose d'un peu plus volatile. La question aussi qu'on va se poser, c'est à quel moment vont avoir lieu les deux grosses IPO qui sont quand même dans les tuyaux, qui sont Anthropic et OpenAI, parce que avec ces rentrées sur le marché, on va quand même avoir des discours qui vont aller vraiment dans le sens de l'intelligence artificielle. On peut faire confiance au marché globalement pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien et donc de remettre en perspective, de remettre en valeur et de remettre sur le devant de la scène tout ce qui est intelligence artificielle globalement. Donc ça, c'est des choses qu'on va attendre. OpenAI commence à dire que potentiellement, ils vont décalé sur 2027, donc c'est des choses qui sont à surveiller. Alors tout semble bien aller. Alors lorsqu'on regarde peut-être un peu plus dans le détail, la semaine dernière, la croissance américaine sur le premier trimestre a été révisée à la hausse, affichée à la hausse, mais c'est un peu technique, c'est-à-dire que c'est le côté importation dans le calcul du PIB. Hein, les importations étaient moins importantes que prévu, c'est ce qui a permis de remonter la croissance au premier trimestre. Donc si on regarde juste le chiffre, on se dit finalement il y a plus de croissance au premier trimestre que ce qu'on attendait jusqu'à présent. On est au-dessus des 2%, on attendait un 6%. Mais en fait, c'est parce qu'il y a moins d'importations. Et qui dit moins d'importations, pourquoi ? Parce qu'il y a potentiellement moins de consommation. C'est aussi quand même le chiffre important qui se cache derrière cette amélioration du PIB. Donc il faut aussi regarder plus en détail. Il faut globalement se méfier sur les chiffres qui paraissent effectivement très très bons, mais qui peuvent marquer certaines faiblesses. L'indicateur de confiance globalement a été très heurté par l'impact inflationniste quand même du conflit, par rapport aux doutes et aux difficultés à se projeter. Donc ça se voit quand même dans les chiffres, même si... Effectivement, on a l'impression que tout va bien. Donc il faut qu'effectivement ça se matérialise et que tout continue de bien aller.
On poursuit nos échanges dans un instant. On est à un peu plus, moins de 20 minutes de la clôture maintenant qui approche, mine de rien. On accélère. Le CAC 40 gagne 0,4%. ArcelorMittal est en tête, plus 3. Schneider Electric aussi gagne 2,8%. Et puis le repli Kering avec Barclays, un plus pessimiste sur les perspectives de Kering désormais. Les objectifs de Gucci, notamment, paraissent de plus en plus inatteignables. Estime Barclays, ce titre Kering perd 6,5%. On a aussi en repli Capgemini, moins 3,8%. En dehors du CAC 40, à suivre Abivax qui rassure sur l'un de ses derniers dernier traitement pour lequel les inquiétudes début juin avaient entraîné une forte baisse du titre. Là, le fait que les dernières données rassurent propulse ce titre à plus 39%. Et c'est peut-être pas fini, on en reparlera tout à l'heure. Alors attention, hein, c'est très spéculatif, mais les experts de Kepler sont plutôt positifs sur le potentiel encore à venir après cette hausse de 39%, même 40% à l'instant. D'Abivax, on parle de tous ces enjeux avec nos experts de marché ce soir, Olivier Malteste et Alain Pitou. Pour l'Europe, quels espoirs ou quel désespoir pour l'Europe? Est-ce que vous pensez que la BCE saura retenir son bras et ne pas relever à nouveau ses taux sur le deuxième semestre qui démarre demain? Les banquiers centraux sont réunis à Sintra. On a des chiffres d'inflation, on me disait, qui ralentissent. Est-ce qu'elle saura se retenir, la Banque Centrale Européenne? Et si oui, est-ce que ça porterait le marché parce qu'il anticipe à ce stade d'autres hausses de taux ici en Europe?
Oui, alors là aussi, ça fait partie des changements qu'il y a eu dans le trimestre. Hein. On pensait en début d'année que les taux allaient plutôt baisser, puis finalement, au cours d'année, ça s'est transformé en hausse des taux. Donc on peut peut-être espérer que finalement tout ça finisse par se compenser. Mais dans ce qui peut arriver, et moi ce que je vais regarder vraiment très attentivement, il y a deux choses. Il y a les divergences de politique centrale, de banque centrale.
Désynchronisation monétaire.
Bah oui, ça c'est quand même un truc qui est jamais très bon. Hein. Donc on a quand même des rythmes assez différents de la part des banques centrales. On a une banque américaine qui potentiellement peut encore monter ses taux, c'est ce qu'anticipe le marché. Alors on ne sait plus du tout parce qu'en fait Kevin Warsh ne communique pas vraiment sur ses grandes tendances. Hein. Il va nous laisser un peu dans le flou. Il faut que le marché s'adapte à ça. La BCE va être un peu entre les deux et on va avoir probablement la Banque centrale du Japon qui, à un moment donné, avec un yen qui est au plus bas depuis 40 ans, va peut-être même finir par... elle l'a commencé, hein, va peut-être continuer ce mouvement de hausse des taux courts. Donc cette désynchronisation est quand même potentiellement gênante. On en saura plus, je pense, peut-être pas après Sintra, mais plutôt après Jackson Hole. Je pense qu'on y verra un peu plus clair donc, vers la fin août. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui nous... Enfin, ça fait... Je crois que ça doit faire 5 ou 10 ans qu'on en parle. Hein, c'est les dettes publiques hein, qui sont de plus en plus importantes et qui ne semblent pas vouloir se ralentir dans leur croissance. Donc, à un moment donné, soit il va y avoir une résolution de cette chose-là, soit, et parce que c'est quand même quelque chose qu'on constate...
Mais on a la preuve que même si les taux montent et que le service de la dette coûte de plus en plus cher, on peut avoir une hausse des actions.
Oui, mais jusqu'à un moment où ça finit par peser sur la croissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce que disait tout à l'heure sur les leviers, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les banques centrales et les banques commerciales, quand elles ont trop devant eux de gens qui demandent de l'argent pour financer leur développement, à un moment donné, ils ne peuvent pas faire plus que... Enfin, on atteint quand même... Je pense qu'on est quand même plus très loin des limites qui pèsent sur la croissance. Donc, c'est quand même quelque... Sans parler de résoudre cet extrême développement de la dette, des dettes publiques en général, et les banques, la BRI l'a encore signalé, c'est quelque chose qui est dans les esprits, donc c'est les deux choses qu'on va regarder, que moi je vais regarder vraiment de près, au-delà des sujets sur les actions. Et là, moi, je pense que là, pour le coup, on va continuer sur les prochains trimestres. C'est des phénomènes de ce qu'on appelle le FOMO, hein, c'est-à-dire que tout le monde va courir après le même genre de papier au même moment. Ouais. Alors, je dis, aujourd'hui, c'est pas global, hein, c'est-à-dire qu'on voit des grandes valeurs qui ont vraiment fortement reculé. On voit le luxe à Paris, on évoquait tout à l'heure Microsoft. À côté de ça, les indices ont quand même performé parce qu'il y a quand même des segments entiers qui ont vraiment fait des performances incroyables. Et ça, je pense que ça va continuer, c'est-à-dire que tant que le...
Et les mêmes taux... ou une rotation?
Non, c'est pas. Enfin, c'est au-delà de la rotation.
Ça dépendra des facteurs déclencheurs à quel moment.
Ouais, puis c'est au-delà de la rotation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des thématiques de croissance quand même. Hein, c'est-à-dire que vous regardez l'espace, vous allez avoir la robotique qui va venir sur le devant de la scène à un moment donné, où là, les engouements vont être incroyables. Donc, je pense que ce phénomène-là va continuer. Donc, ça crée un bruit positif avec autour de ça des valeurs qui se font massacrer en bourse, hein, avec des baisses, des valeurs comme Microsoft qui ont perdu 20%, Oracle, j'en parle tout à l'heure, qui a baissé, je crois, elle a fait 340, elle est à 140 aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est des sanctions qui sont extrêmement sévères. Et à côté de ça, les indices ont quand même monté. Donc, ce phénomène-là, je crois que va continuer tant que les taux ne montent pas franchement. Quoi.
Alors, je comprends. Et en même temps, l'Europe avance. Ça peut être quand même pour l'avenir prometteur, renforcer le potentiel de croissance structurelle. On verra. Alors, vous avez dit comme ça, on se dit, mais de quoi il parle? Il y a le rapport Draghi. On avance dans ce rapport Draghi, dans sa mise en œuvre. D'après l'Institut Montaigne, 18 mois après le rapport Draghi, on est à 30% du rapport mis en œuvre. C'est pas beaucoup, 30%, mais c'est quand même pas mal. Parce que
c'est plus facile.
Oui, c'est ça, c'est que c'est plus facile. C'est un peu comme... c'est pas la même chose, mais ça fait un peu penser à la négociation entre les États-Unis et l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont les plus compliquées, qui sont repoussées en bout, qui sont le détroit d'Hormuz, qui sont le côté nucléaire, et on ne sait pas à quel moment elles seront réellement discutées. Là, pour l'instant, ce qui est fait, c'est qu'on a l'impression que ça suit l'ordre de marche, ce qu'il faut. Hein, 30% environ, c'est plutôt pas mal, mais c'est vraiment sur les choses qui sont les plus faciles. Et on a du mal à voir à quel moment on va vraiment aborder les questions les plus problématiques, notamment sur la convergence du financement et ainsi de suite, qui sont dans le discours Draghi, donc dans le rapport Draghi. Donc effectivement, le rapport Draghi est plus pris en compte que ce qu'on a l'impression, mais néanmoins, c'est vraiment sur les choses qui sont les plus faciles qui ont été d'abord abordées.
Oui, en 18 mois, 30% du rapport ont été mis en œuvre. Donc d'après l'Institut Montaigne, dans un an, on sera à combien d'après vous ? De 30%, on sera passé à 31%, c'est ça
maintenant c'est... Ah, peut-être 35 ou 40, mais c'est les points les plus importants qui sont les plus difficiles, et c'est certainement ceux qui ont le plus d'impact globalement, et ceux qui sont les plus importants aussi dans l'esprit de Mario Draghi. Donc il faut surveiller ça. Mais c'est vrai qu'on a vu une banque centrale européenne qui a monté ses taux. Alors l'inflation baisse, est-ce qu'elle se réjouira et dira qu'elle a eu raison de monter ses taux puisqu'elle a baissé l'inflation? On verra, et pour l'instant le marché continue d'estimer qu'en septembre, elle montera de nouveau, donc pas en juillet, mais en septembre, elle nous montera de nouveau ses taux. Ce qui, là, pour le coup, a un impact quand même sur la croissance.
Oui. Et cette autre question qui va avec tout ce qu'on est en train d'évoquer pour le deuxième semestre, est-ce que le rythme à la hausse, le rythme haussier des marchés risque d'être ralenti par le fait qu'il y a tellement de nouvelles actions émises avec toutes ces IPO, il y en aura encore à venir, que ben, finalement, quand l'offre est abondante, la valeur des actions, elle, risque de moins progresser que par le passé. Par le passé, on avait un marché en pleine attrition avec tous les rachats d'actions, il y avait de moins en moins d'actions disponibles, donc la valeur des actions progressait. Là, avec les IPO, on en a à nouveau de plus en plus. Est-ce que ça peut devenir un souci pour le deuxième semestre? Ou au contraire, comme à côté les rachats d'actions se poursuivent aussi à un rythme record, bah, l'un et l'autre se compensent.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que les rachats d'actions, les grands rachats d'actions vont quand même un peu se calmer, mais ça va se faire par arbitrage, hein, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde par exemple, je ne pense pas qu'il y ait de lien immédiat entre la baisse du luxe et ce qui se passe sur certains segments tech américains, mais ça va très vite, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a deux phénomènes, c'est un FOMO sur quelques secteurs et puis un phénomène d'éviction. Avant, on disait quand une entreprise déçoit, pour qu'elle se remette en route, il faut 2 ans de purgatoire avant que une nouvelle stratégie soit mise en œuvre, que les investisseurs l'aient pris en compte et que on reparte. Donc c'est un peu ce qu'on espérait sur Kering. Hein. C'est 2 ans un peu de baisse, ça fait à peu près ça que ça baisse. Puis il y avait un nouveau PDG qui arrive et puis on se disait c'est reparti. Bah finalement les purgatoires ils peuvent durer beaucoup plus longtemps que ça. C'est-à-dire que le secteur automobile, si ça se trouve, il va mettre des mois et des années avant de se redresser, alors qu'on est sur des niveaux de valorisation d'analystes qui sont extrêmement bas. Donc on peut avoir ce phénomène de c'est pas de la rotation parce que encore une fois c'est avant la rotation c'était les valeurs de croissance qui à un moment donné allaient sur les value et puis quand la croissance avait été massacrée on revenait dessus, etc. Mais là c'est au sein de la value, il y a des segments, vous voyez aujourd'hui ArcelorMittal qui monte fortement, vous avez le luxe qui est pas franchement un secteur value qui se fait encore
qui recule
cartonné. Et à côté de ça, vous avez on est en train de rebondir sur l'espace. Hier soir, ça a fortement monté. Il y a des segments de la défense. Hier, il y avait Aéro-Environnement qui donnait ses résultats. Le titre est monté de 20%. C'est des drones. Vous voyez, c'est des trucs comme ça qui... voilà, il y a un engouement incroyable sur ces valeurs-là. Alors effectivement, si Anthropic et OpenAI arrivent au mauvais moment, bah, l'introduction se passera mal. Mais regardez SpaceX, hein, ça s'est très bien passé. Après, ils vont prendre un mur peut-être cet été avec les abondements nouveaux qui vont arriver, mais en tout cas, ça a tenu. Hein.
Et entre IPO, qui veut donc des nouvelles émissions d'actions et rachats d'actions à des niveaux records quand même aussi cette année, il ne faut pas les oublier. Est-ce qu'on se dit que le phénomène d'attrition qui permettait au marché de monter presque naturellement créer une forme de marée haussière, marée montante pour les investisseurs, il suffisait de faire la planche et les marchés montaient parce qu'il y a de moins en moins d'actions. Là, est-ce que ça va être remis en cause par l'ampleur des IPO ou pas forcément parce qu'il continue d'y avoir des records de rachat d'actions, Olivier?
Oui, et puis il faut voir les thèmes en fait de l'IPO, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens ont envie de pouvoir investir aussi sur l'intelligence artificielle en tant que telle. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le seul moyen de le faire, hein, c'était d'investir directement dans Google, dans Microsoft, qui avaient eux-mêmes des participations sur ces entreprises-là. Là, ça va pouvoir être beaucoup plus direct. direct. Mmh. Et ce qu'on voit aussi hein, sur le thème de l'intelligence artificielle ou de la technologie, c'est qu'on est peut-être ressorti pour l'instant de ces gros acteurs, mais on a été beaucoup plus sur tout ce qui va être semi-conducteur, tout ce qui va être sur mémoire. Donc on reste quand même sur le même thème et sur le même scénario joué, mais de manière un petit peu différente. Et ce qui me marque aussi, hein, c'est que globalement, on a ces investissements, on a ces comportements boursiers qui sont un petit peu cycliques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va se rapprocher de la période des résultats trimestriels de ces entreprises-là. On a l'impression que les gens prennent leurs bénéfices. Donc là, ça va être plus compliqué de prendre ces bénéfices, puisqu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont perdu sur le trimestre, mais un peu en recul. Et puis, lorsque les résultats, en fait, sont encore au-dessus des attentes et sont encore très, très bons, globalement, et ben, en fait, les gens se repositionnent derrière, puisque finalement, la technologie tient et pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Ce qu'il va falloir vraiment regarder, et c'est quelque chose qu'on peut voir sur le prochain semestre, c'est à quel moment on va avoir les premières matérialisations concrètes du gain de l'intelligence artificielle. Donc on l'attend, on a aujourd'hui beaucoup d'investissements qui sont faits au niveau des entreprises. On sait qu'il y a des entreprises et des secteurs tels que les banques qui, a priori, tirent bénéfice et du gain de temps qu'ils peuvent avoir pour étudier les dossiers, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc tout est en train de se mettre en place, mais on n'a pas de matérialisation vraiment concrète des gains de productivité. Et à un moment, on en aura. Peut-être que ce sera sur la santé. On mise aussi beaucoup hein, sur le secteur de la santé, sur les brevets et ainsi de suite. Pour l'instant, on a juste des bribes, on a juste des choses. À partir du moment où, si pendant le semestre, on a vraiment une confirmation, là, on va lever ce doute, cette hypothèse de se dire est-ce que ce sera rentable un jour ? Est-ce qu'on est sur un phénomène de mode, sur une innovation, mais qui ne va pas changer réellement ? Ou est-ce qu'on est vraiment sur la révolution dont on a entendu beaucoup parler ? Et ça peut venir quand même, ça fait quand même plusieurs années qu'on commence à en parler. On peut avoir des matérialisations un peu plus concrètes sur le prochain semestre. Ça va faire partie des sujets à regarder.
Oui, je sais qu'il y a un thème dont vous voulez absolument parler ce soir, Olivier.
Oui.
Il nous reste
IPO,
deux minutes. Oui, une IPO, c'est pour ça, la transition, parce qu'on parlait des IPO, il y en a énormément aux États-Unis, en montant, en volume, hein, pas forcément en nombre. En Europe, il y en a un peu moins, mais quand il y en a... Alors, il y aura KNDS quand même dans la défense, le groupe franco-allemand, dans quelques semaines, qui doit s'introduire. Et puis, ici à Paris, vous vouliez revenir sur l'une des infos, l'une des annonces des derniers jours, l'annonce de l'introduction en bourse, ici à Paris, on en est fiers, du slip français.
Exactement.
Bon, on en a pas mal parlé en fin de semaine dernière, mais ça a l'air de particulièrement vous inspirer cette introduction en bourse. Pourquoi ?
Oui, vous allez me trouver bizarre, mais j'ai pensé à Alan Greenspan, en fait, qui est décédé très récemment. Et parce qu'en fait, Alan Greenspan, il avait un indicateur qu'il aimait bien, c'était la consommation des sous-vêtements masculins. Et pourquoi il aimait bien suivre cet indicateur-là ? Parce qu'en fait, il considérait que c'était la consommation qui devait être la plus stable dans le temps, puisque, en général, les sous-vêtements masculins, c'est des choses qu'on garde pour nous et qu'on montre peu. Et donc, en fait, on les change que quand ils sont usés. Et donc, on a quelque chose qui, normalement, est relativement stable. Et il aimait bien suivre cet indicateur-là en considérant qu'à partir du moment où la consommation baissait fortement, ça signifiait que les consommateurs avaient des problèmes financiers, puisque c'est des choses qu'on pouvait, comme on les cache, qu'on pouvait éviter de renouveler. Et donc, j'ai pensé à lui, c'est vrai, peut-être besoin d'aller voir un médecin, mais j'ai pensé à lui sur cette publication en me disant est-ce que c'est le signal justement que si on fait l'introduction en bourse du slip français, qu'on n'a pas de problème de consommation en France et que c'est plutôt un signal positif sur l'économie française. Mais j'ai pensé à Alan Greenspan, puisque c'est vrai que Kenny Walsh en avait beaucoup parlé et que c'était un peu le passage de relais entre Alan Greenspan et Kenny Walsh globalement. Et là, quand j'ai vu le slip français, j'ai pensé du coup à cet indicateur qui ne fonctionnait pas très bien. Hein. Ça fait plutôt partie des étrangetés dans le domaine marché. Économique. Ouais. Mais il aimait bien suivre cet indicateur-là.
Oui. Vous aussi, vous suivrez le slip français ?
Oui.
Oui. C'est incontournable.
Incontournable.
14 juillet, normalement, l'introduction en bourse. Mais les rois de la com, quand même.
5 jours.
Et on rappellera leur slogan pour cette introduction en bourse. Vous le connaissez. L'introduction en bourse du slip français pour mettre vos slips en action. En action. Le CAC 40 gagne 0,5%. Dans un instant, la clôture, on va la vivre ensemble, bien sûr, avec Antoine qui va nous rejoindre. Mais d'abord, messieurs Olivier, Alain, on entre dans la Data Room. C'est votre buffet de data à volonté. Olivier, Alain, est-ce que le buffet est prêt ?
Oui.
Oui.
Oui ? Vous saurez vous montrer généreux en data, alors. On va démarrer avec Alain,
ouais.
Le oui le plus timide.
Oui.
Votre chiffre, 638 milliards de dollars.
Eh oui, 638 milliards de dollars, c'est impressionnant, c'est le carnet de commandes d'Oracle. En fait, c'est des contrats signés, ils ne sont pas encore facturés, hein, donc on ne s'emballe pas. C'est plus que la valeur en bourse, c'est 10 ans de chiffre d'affaires en avance. Et alors, c'est assez symptomatique de la tech d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, et c'est le plus dangereux en fait, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un acte de foi en fait aujourd'hui quand on se dit qu'on va acheter parce qu'il y a un carnet de commandes extraordinaire. Parce que quand on regarde un peu dans les détails, effectivement, c'est un carnet de commandes, on va dire, sur 10 ans, c'est 10 ans de chiffre d'affaires quasiment, donc c'est incroyable. Mais la moitié, c'est sur un seul client, c'est OpenAI qui est lui-même pas un acteur très rentable aujourd'hui. Mm-hmm. Donc il y a quand même un acte de foi de ce côté-là. Et puis aujourd'hui, Oracle investit énormément, utilise beaucoup de son, enfin un cash flow négatif, donc on a et sans dette, etc. Enfin, on est quand même sur une situation qui est assez paradoxale. Et en fait, je pense que c'est un moment un peu charnière, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu le titre hein, qui est passé. Vous vous rappelez, ils avaient annoncé des résultats exceptionnels. Le titre était monté à 347, quelque chose comme ça en dollars. On est aujourd'hui à 145. Donc on a déjà fait une bonne partie de baisse sur ce titre. Et en fait, c'est si vous croyez pas du tout à l'histoire, bah, terminez, sortez et puis on n'en parle plus. Et puis voilà. Par contre, c'est aussi ce genre de moments qui ont été des mouvements charnières pour des boîtes comme Palantir. C'était un peu la même idée, c'est-à-dire qu'en fait la boîte n'était pas rentable, avait annoncé des carnets de commandes incroyables et puis le titre s'est envolé parce que les chiffres ont été avérés. Donc ça va être très binaire, je pense, sur Oracle. Soit ils vont avoir des grosses difficultés, comme beaucoup de boîtes de la tech, soit les investisseurs, une fois de plus, auront eu raison d'être patients et d'y croire. Et,
vous êtes montré généreux en data, voilà. Alain. Ouais. À vous, Olivier, votre chiffre ce soir, presque aussi gros, un peu moins, 743 millions de barils.
Oui, bien moins gros, 743 millions de barils, c'est l'état des stocks de pétrole, hein, tel que publié par l'agence statistique de département d'énergie américain. Et dans ce stock-là américain, hein, du coup, de pétrole, ça regroupe à la fois les stocks commerciaux et les réserves stratégiques, qui elles aussi sont plus basses. Et donc, on est sur les plus bas d'octobre 84, donc sur les plus bas de plus 40 ans globalement sur les stocks de réserve. Et c'est ce dont on disait, hein, ce dont on échangeait tout à l'heure, c'est pour moi une interrogation du coup avec des stocks au plus bas. Comment se fait-il que le pétrole soit redescendu aussi vite, puisque ces réserves-là, il va falloir les reconstituer. D'un côté, ça favorise peut-être les négociations, puisqu'on n'a plus non plus énormément de réserves. Mais c'est vraiment un plus bas de 40 ans globalement, avec un pétrole qui est redescendu vraiment drastiquement, alors qu'on a besoin de reconstituer ces stocks. Les Chinois avaient un stock de plus d'un an, donc ils sont moins pressés, mais par contre, au niveau américain, le stock est quand même relativement bas, sachant qu'en plus, ils ont produit au maximum globalement en termes de pétrole. Et donc, c'était le...
Et les Indiens ont annoncé qu'ils allaient, pour la première fois, créer un stock stratégique aussi. Donc, ça va être un facteur de soutien.
Ben voilà, deux belles datas. On n'a pas du tout parlé du Japon. Le yen est quand même sur des plus hauts, des plus bas de 40 ans là, face au dollar. Généralement, le yen, l'été, ça nous perturbe les marchés. Hein. Ça tombe très mal en termes de timing. Ouais.
Mais là aussi, c'est pareil. Les marchés ne croient pas à un risque systémique comme on avait pu connaître avec la fin du carry trade à l'époque, c'était 2024, je crois, où en quelques jours, le marché avait très fortement reculé. Là, le marché se dit il n'y aura pas d'intervention. Et puis, s'ils montent leur taux, ce n'est pas bien grave. Donc,
ouais, tout passe. Hein,
levier maximum sur les actions japonaises. Et...
C'est un signe de grande éducation des investisseurs ou que ce n'est plus des humains vraiment qui font le marché ou au contraire, absence d'expérience quand on voit qu'on achète tout en fait en ce moment en bourse?
Non, c'est pas tout qui est... Non, tout n'est pas acheté. Et je crois que c'est une succession.
Mais on achète tous les contextes. C'est là que je veux... Le marché monte à peu près, quels que soient les contextes.
C'est un sujet qu'on a déjà évoqué. C'est la gamification de la gestion. C'est-à-dire que les gens font une partie de leur allocation qui est très stratégique, qui ne bouge pas trop, et puis une somme de paris très risquée sur certains segments. Donc,
Olivier,
c'est quelque chose qui arrive.
Oui, c'est vrai. Et puis le carry trade, la dernière fois, c'était vraiment un chiffre de l'emploi qui avait déclenché ça en août 2024.
Là,
ça avait duré
trois
jours.
Ouais, le yen.
Ouais. Ouais, ça avait duré trois jours avant que le marché rebondisse et se calme.
Donc attention au yen CT qui est donc à nouveau sur des plus bas de 40 ans face au dollar. Action à venir ou pas de la Banque du Japon. Il y a des coups de fil réguliers entre Washington et Tokyo sur ces enjeux-là. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Olivier Maltès, Altéis by Yomoni, et Alain Pitou, Senior Advisor ESG.
Merci Guillaume.
Bon retour à tous les deux dans un instant. La clôture avec Antoine. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Une clôture dans le vert pour le CAC 40 à Paris, plus 0,44%, 8403 points. On arrive à accrocher ces 8400 toute fin de séance au fixing. Et on signe effectivement le meilleur trimestre depuis deux ans à la Bourse de Paris sur l'indice vedette. Donc une belle séance. On a profité aussi du siège de Wall Street hein, où règne une tendance positive. Et le reste des marchés européens termine en hausse. Le CAC 40 à Paris signe une petite contre-performance étant donné que le secteur du luxe a pesé, on va le voir. L'Eurostock 50 signe une progression d'1,5% plus 1,4% pour le DAX à Francfort et plus 0,9% pour l'indice MIB de Milan. Du côté des plus fortes hausses du CAC 40, alors c'est pas trop une surprise, hein, mais on a l'ensemble de l'industrie quand même qui signe de très très belles performances. On sort un petit peu la tête du sceau de l'intelligence artificielle et de la high-tech, du moins à Paris. ArcelorMittal gagne 2,9%. On gagne 2,6% pour Schneider Electric à 285,40€. Safran plus 2,5% à 345€. En revanche, en queue de peloton, ça c'est pas une surprise et c'est depuis le début de la séance, le secteur du luxe, hein, si vous regardez bien, LVMH-1,67 à 484,10€. Mais le titre le plus atteint, ça a été Kering qui a perdu 6,3%, 248,80€. Des opinions d'analystes négatives après notamment un coup de fil, un conference call avec la direction financière du groupe qui fait dire que les objectifs restent quand même très compliqués à atteindre. Donc plus 0,4% pour le CAC 40 en clôture et donc ce meilleur deuxième trimestre depuis deux ans.
Andréa Toigny nous rejoint à Saxo. Rebonsoir Andréa. Voilà, ce meilleur trimestre en deux ans pour le CAC 40 qui termine à plus de 8004, plus 0,4%, 8403 points. Comment vous sentez les ressorts du marché pour la suite et pour ce nouveau trimestre qui s'ouvre désormais?
Bah, la situation sur le CAC, elle est plutôt égale. Alors c'est vrai que ça, c'est un bon chiffre, hein. C'est une bonne performance trimestrielle, mais qui est aussi à relativiser aussi avec la performance qu'on a vue par rapport à d'autres indices aussi, qui est un peu moindre. On a une sous-performance sur le CAC, et c'est vrai que sur les autres trimestres, on le voit aujourd'hui. Je pense que c'est un petit peu ça qui peut être un déclencheur sur le CAC. On le voit aujourd'hui, on est lesté par la performance de Kering. On a besoin d'avoir un peu plus de carburant des poids lourds du CAC pour espérer aller plus haut et franchir certains niveaux de résistance. Parmi ces niveaux-là, on observe à court terme deux niveaux, 8450 très court terme. 8500 un peu plus loin, mais c'est vraiment deux barrières qu'on a du mal à franchir. On les a déjà testées, mais on a vraiment eu du mal à s'installer au-dessus de ces niveaux, comme on avait eu du mal à s'installer à l'époque au-dessus des 8259 points, qui devient aujourd'hui un niveau de support. Et on a d'autres supports court terme, 8340, 8300 et une zone d'alerte, elle, qui est plus loin à 8100 points. Donc tant qu'on reste au-dessus des 8100 points, on a ce potentiel pour poursuivre justement sur un momentum haussier et aller s'affranchir un petit peu de ces niveaux de résistance. Mais pour le moment, voilà, on va se contenter de ce qu'on a, qui est quand même positif, la meilleure performance en deux ans, mais on peut espérer, on peut s'attendre à mieux du côté du CAC.
Andréa Toigny avec nous depuis Saxo, on est à vos côtés, BFM Bourse, pour encore aller une grosse dizaine de minutes. On va essayer de vous apporter du coup des pistes pour la suite. C'est le coup d'avance traditionnel. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec elle est là, Kathleen Gaillot pour Kepler Chevreux. Bonsoir Kathleen, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Ce soir. Il y a une valeur qui se distingue fort sur le marché parisien, c'est, on va démarrer tout de suite par ça, Abivax, hein, que beaucoup de particuliers suivent, plus 39% en clôture Abivax. Les prévisions qu'Abivax a apportées sur son traitement contre la rectocolite hémorragique, ces nouvelles précisions dissipent les inquiétudes qui avaient fait chuter ce titre, hein, au début du mois de juin, on s'en souvient peut-être un peu moins, mais le titre Abivax avait perdu 43. Aujourd'hui, il récupère quasiment 40. Est-ce que cette hausse, ce rebond aujourd'hui, n'est pas un petit peu trop exagéré, d'après vous?
Non, pas du tout. Non. En fait, Abivax effectivement a publié les résultats de la partie 2 d'une étude de maintenance, hein, et qui fournit des données supplémentaires pour interpréter les données de sécurité d'emploi, et notamment relatives au cancer. Et donc ça, c'est très rassurant. Les données de tolérance sont très rassurantes. C'est ce qui avait inquiété, hein, plutôt dans le mois de juin. Et finalement, selon nous, ça lève la dernière incertitude forte sur Abivax. Le dépôt de NDA pour la mise sur le marché est attendu au T4. Et donc, on relève nos probabilités de succès, les hypothèses commerciales dans notre modèle. Et on augmente significativement notre objectif de cours à 180€. Donc voilà, à la clôture d'hier, on voyait un potentiel de doublement du titre. Donc voilà, 40%, c'est justifié, hein, quand on met au regard de la baisse récente. Et c'est un titre, voilà, qui, au vu des perspectives sur ce médicament, au Befazimol, a de très bonnes perspectives commerciales. On pourrait être dans la fourchette haute, hein, de valorisation. Donc, de 12 avant-garde qu'on avait évoqué en janvier.
Vous visez 180€, c'est ça que vous disiez sur Abivax?
Oui.
Avec vos équipes chez Kepler, bon, on est à 115,50 ce soir, ce qui laisserait donc encore du potentiel. Andréa, d'un point de vue graphique, est-ce que, ouais, 180, ce sera easy, facile?
Alors, il y a quelques niveaux pour nous avant d'arriver sur ces niveaux-là. Donc, déjà, on a un niveau pivot qui est clair et qui est à 115. On n'est pas très loin au final de ces niveaux, mais tant qu'on est au-dessus des 115, on a cette capacité à aller chercher un premier objectif que nous, on fixe à 131. Ça paraît être un objectif réalisable, assez atteignable, même sur du court terme. Ce qu'il faut noter aujourd'hui d'un point de vue technique, c'est qu'on est au-dessus des moyennes mobiles court, moyen, long terme, qu'on a un RSI qui vient de casser une résistance et qui est passé au-dessus de 60. Et donc, on est vraiment sur un momentum qui est quand même positif sur le titre. Donc, le vrai sujet, c'est vraiment de rester au-dessus de ce niveau pivot, au-dessus de 115 en clôture, c'est important. Et si on venait à passer en dessous de 115, on a un niveau d'alerte qu'il faudrait surveiller, qui situe lui à 95. Donc il ne faudrait vraiment pas casser les 95 pour pas un peu annihiler le dernier mouvement qu'on a vu sur le titre.
Abivax, qu'il fallait suivre aujourd'hui, d'autres titres qui se distinguent en clôture. Alors cette fois, à la baisse, TP, ex-Téléperformance, qui aura reculé quand même ce soir de 11,5% après l'avertissement de l'américain Concentrix, abaissement de ses prévisions, les prévisions de Concentrix, qui renforcent les doutes du marché sur, on va dire, l'existence future de ce métier, celui de téléperformance également, avec cette concurrence de l'intelligence artificielle. Est-ce que le marché a raison d'y croire de moins en moins aussi pour TP, pour téléperformance, Kathleen?
Je pense que là, bon, la sanction boursière, hein, ouais, c'est clairement sur 2026, hein, un deuxième trimestre qui est en dessous des attentes, notamment sur les revenus, un profit warning sur l'ensemble de l'année, des perspectives aussi assez faibles sur le T3. Donc si on reste dans cette fenêtre-là et on se demande si c'est transposable à téléperformance, on n'est pas sûr que la guidance de téléperformance soit vraiment à risque. Effectivement, elle suppose une accélération au T2, mais ils avaient eu un premier trimestre qui avait déjà été un peu plus faible par rapport à Concentrix. Donc voilà, on n'est pas sûr que ça soit exactement transposable. Ils ont aussi des réductions de coûts, hein, qui vont être à l'œuvre, qui vont permettre d'améliorer la marge. Donc, on est un petit peu plus positif sur téléperformance que sur Concentrix, et on pense que c'est peut-être un petit peu exagéré de transposer le, oui, risque exactement. Sur ce que vous évoquez sur le moyen long terme et le risque de l'intelligence artificielle, un peu existentielle, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on réussira à résoudre tout de suite. Notre soupçon, c'est que téléperformance sera un intégrateur nécessaire des solutions d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un client indépendant, mettre en place des chatbots, de l'IA seulement, sans avoir derrière en backup des téléopérateurs pour prendre les cas les plus difficiles qui ne peuvent pas être résolus simplement par les machines. Ça nous semble un peu illusoire, particulièrement pour des marques qui sont purement Internet, qui dépendent que voilà, du contrat téléperformance pour gérer leurs relations clients. Donc pour nous, c'est des solutions qui seront intégrées à l'offre de téléperformance, qui seront peut-être un peu déflationnistes, c'est ce que le marché redoute aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est très difficile de résoudre à ce stade. Donc nous, on a une opinion plutôt positive sur téléperformance aussi pour des raisons de valorisation. Mais effectivement, ces débats un peu long terme ne seront pas résolus tout de suite et peuvent continuer à peser sur le titre à court terme.
Oui, cette valeur, donc téléperformance emportée par Concentrix, mais vous dites la lecture croisée du marché est un peu abusive. Voilà, téléperformance peut être en partie injustement sanctionnée à moins 11,5 ce soir. Autre valeur à suivre, Antoine, vous l'avez repéré, une des plus fortes hausses du SBF 120.
Ben oui, c'est Mersen qui signe une hausse de 10,97%, 41,66 € aujourd'hui. Le titre qui signe la troisième plus forte hausse du SBF 120 sur le trimestre écoulé. Il y a ST Microelectronics, Soitec et ensuite Mersen, le vénérable Carbon Lorraine. Vous vous souvenez quand on suivait cette valeur. Mais oui, il n'y a pas photo, c'est encore un titre qui, de près ou de loin, est lié à l'IA, comme on dit, puisque ces matériaux de base servent à l'élaboration de matériel électrique de haute technicité qui servent dans les data centers. Et donc Mersen devient un acteur incontournable, en profite et donc signe cette troisième plus forte hausse du SBF 120 avec plus 11% au compteur aujourd'hui.
Exactement, c'est-à-dire que c'était déjà la troisième plus forte hausse et encore plus 11 ce soir après déjà un parcours brillant sur le dernier trimestre. Qu'est-ce qui justifie le plus 11 ce soir et est-ce que ça doit aller, Mercel doit aller encore plus haut, Kathleen?
Oui, c'est ce qu'on pense. On a publié aujourd'hui une note assez détaillée sur l'opportunité qui s'ouvre à Mercel dans les data centers. Donc, on le rappelait, hein, Mersenne, c'est un expert mondial des matériaux en graphite, notamment, et on découvre des applications dans de nouveaux piliers de croissance assez significatifs, les data centers et le nucléaire. Et ça, ça pourrait conduire, en fait, la société à, au-delà du consensus, hein, qui est aujourd'hui encore un petit peu hésitant et qui se trouve en dessous de l'ambition affichée par le management. Donc, voilà, finalement, ces deux verticales devrait sécuriser l'objectif moyen terme du groupe et donc la croissance des années à venir. Nous, on anticipe un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de 7%, des bêta de 26% et on a un titre qui se traite à seulement 10 fois le PE 2027, un cash flow yield de 7-8%. Donc finalement, pour nous, c'est à ce stade le play. Enfin, un play croissance à une valorisation toujours raisonnable qui est très attractif, exposé aussi à des domaines plutôt prometteurs. Et c'est une société d'un milliard d'euros, donc probablement encore sous les radars de beaucoup d'investisseurs avec un potentiel de découverte assez fin.
Le CAC 40, on vous le rappelle, en clôture ce soir a gagné 0,4%. On termine ce deuxième trimestre magnifique quand même, au-dessus des 8 400 points, 8 404 pour notre CAC 40. La bourse de Milan aura gagné plus de 16% au deuxième trimestre, Madrid plus 15%, le Nasdaq 100 plus de 25% de hausse. Attendez, quand même vérifier histoire de ne pas dire trop. Oui, c'est ça, 25%, on en vient presque à douter. 25% de hausse en un trimestre, vous vous rendez compte? Et puis le S&P lui aura gagné 17% avec la séance du jour qu'il faudra ajouter à cette performance dont je vous parle, donc 0,6% de hausse encore ce soir sur le S&P. À Paris, Kering, en revanche, termine lanterne rouge. Alors ça, Kathleen, c'est un de vos concurrents qui estime, je cite ou je le cite? Bon, allez, je le cite quand même, Barclays, qui estime que les objectifs sur Gucci sont peut-être un peu ambitieux. Kering recule de 6,9% à quelques petites semaines maintenant de la publication. Comment vous regardez c'était ce soudain pessimisme, en tout cas, des investisseurs ce soir?
Non, effectivement, les analystes sont en train de publier leurs prévisions plus exactes, hein, pour le T2 qui sera publié prochainement. On attend une très légère amélioration au T2. On est à plus 1%. Le T1 était stable, hein, pour rappel. Cette amélioration, elle doit se faire grâce à Gucci, mais la Chine est toujours assez faible. Et finalement, ce n'est pas assez pour entraîner le chiffre d'affaires vraiment avec une croissance très supérieure à ça. Par ailleurs, les marges au S1 resteront toujours sous pression. L'amélioration, elle sera plutôt sur le S2. Et donc finalement, c'est le T3 qui va marquer le point d'inflexion. Donc, c'est notre histoire de turnaround, de redressement préférée au sein du secteur du luxe. Mais un petit peu de patience est encore requise. Voilà, on intègre aujourd'hui dans le cours le fait que le T2 sera... peut-être un peu d'éclat.
Et vous disiez, Antoine, hein, qu'est-ce que ce sera le prochain trimestre si le luxe finit par se réveiller, parce qu'on a des perfs, le meilleur trimestre en 2 ans pour le CAC 40. Si le luxe se réveille vraiment, ce sera,
Sera peut-être c'est notre mieux. Catalyseur, c'est nos plus grosses pondérations, si ça peut servir d'effet booster. Enfin, cela dit, attention à ce troisième trimestre qui commence par un été qui s'annonce chaud techniquement, avec des considérations autour de l'IA. Enfin, si on peut se rattraper avec une performance meilleure du secteur du luxe, ça pourrait déjà être ça.
Et puis JC Decaux obtient le renouvellement pour 8 ans du contrat publicitaire de l'aéroport Heathrow à Londres, gros aéroport, l'un des plus gros du monde. JC Decaux, pas évident le contexte publicitaire néanmoins, peut-être exposé aussi au Moyen-Orient. Comment vous regardez le potentiel de ce site désormais, Kathleen?
On est plutôt positive, hein, sur cette nouvelle très spécifique. Bon, je crois que ce n'était pas un contrat qui était tellement à risque, hein, donc ce n'était pas un enjeu. C'est un contrat qu'ils ont maintenant depuis 25 ans, si je ne me trompe pas, qui est prolongé pour 8 années supplémentaires. Donc voilà, ce n'est pas une nouvelle qui est absolument décisive pour le titre. Voilà, on reste plutôt positif sur les perspectives de JC Decaux, et c'est un titre qu'on pousse toujours.
Et une valeur britannique pour ceux qui s'intéresseraient au marché britannique, iMy, que nos experts de Moneta nous ont présenté. C'est dans Valeur ajoutée, cette séquence Valeur ajoutée disponible en replay également. Merci beaucoup, Kathleen, de nous avoir accompagnés. Kathleen Gaillot, bonne soirée, Kathleen, pour Kepler. Bonne soirée. Le CAC 40 termine donc à plus 0,4 ce soir. Demain matin, Good Morning Markets avec Étienne Braque, bien sûr. Dans un instant, c'est Antoine que vous retrouverez pour le débrief de la séance. Aux côtés, Antoine, d'Edwige Chevrillon, le 18-19 est à suivre sur BFM Business. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.